Cette voix que l'on vient d'entendre n'est plus celle de Lautréamont, manifestement. Effectivement, c'est celle d'Isidore Ducasse, c'est-à-dire la seconde découverte. Et ce sont évidemment les surréalistes qui, non pas découvrent Isidore Ducasse, mais ce très curieux rapport qui peut exister entre poésie et les chants de Maldoror. Il faut bien voir qu'il n'y a pas là rupture, qu'il y a là une sorte de processus dialectique assez difficile à saisir, mais que les surréalistes eux-mêmes vivent, étant donné qu'ils ont rompu avec Dada, et qu'ils deviennent surréalistes, c'est-à-dire qu'ils charrient dialectiquement dans leur rupture une continuité. L'importance de la découverte d'Isidore Ducasse par les surréalistes se situe là. Et il faut ajouter aussitôt que ces jeunes gens, après avoir connu le conflit 1914-1918, entrent de plein pied dans la politique. Dès lors que l'on accorde ne fût-ce qu'une vertu parodique à poésie d'Isidore Ducasse, on voit très bien comment les surréalistes vont être amenés à se déterminer par rapport à cette découverte même. Et ceci va se prolonger à l'Injouffroy jusque chez les héritiers directs du surréalisme dont vous êtes.
J'ai lu Lautréamont avant de le lire. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de lui, c'était un nom qui me fascinait. Quand j'avais 17 ans, je n'arrivais pas à trouver un exemplaire du livre. C'était à l'époque assez difficile, juste après la guerre. Et je n'ai pas su trouver le chemin. Je ne connaissais pas José Corti, je ne savais pas qu'il existait. Et quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression étrange de le relire. Comme si, quelque part, dans mon inconscient, tout le texte s'était déjà formé. Puis ensuite, j'ai rencontré Breton, et Breton m'a donné sur Lautréamont une sorte de lumière où je ne reconnaissais pas mes propres fantasmes. J'étais distancé par rapport aux surréalistes, non seulement à cause d'une génération, ou peut-être même de deux qui me séparaient de 24, mais aussi du fait que je me sentais individuellement lié à un homme qui était essentiellement solitaire, et dont la marque essentielle était le refus de tous les types de discours existants. Et ensuite, ce qui, en relisant, mais alors réellement Lautréamont, ce qui m'a frappé, c'est évidemment les détournements opérés par Lautréamont à partir des textes de Pascal, de Vauvenargue, etc.
C'est-à-dire le retournement des citations.
J'appelle ça détournement.
Détournement, oui, si vous voulez, puisqu'il s'agissait certainement pour lui de mettre en cause ce qu'il y avait de statifié.
C'est cela. Alors, ce type de pensée qui s'appuie sur une autre, comme si les pensées écrites au préalable d'une manière pessimiste ou sceptique par tous les grands penseurs de la tradition française devaient être corrigées en bien, comme il disait, non ?
Exactement, oui.
Et cette correction en bien de la pensée traditionnelle me semblait la plus révolutionnaire de toutes.
Et n'oubliez pas qu'il voulait et qu'il entendait se corriger lui-même. C'est bien un projet de poésie.
Bien sûr. C'est en se corrigeant lui-même, c'est-à-dire en effectuant peut-être même, et ceci à notre insu, des détournements de ses propres textes, des textes qui auraient disparu, que peut-être poésie a été écrite.
Oui, c'est possible. Dans le livre que vous venez de publier, Alain Jouffroy, en 10-18, en collection au format de poche chez Christian Bourgois, et qui a pour titre « De l'individualisme révolutionnaire », on voit très bien à quel point Lautréamont ne vous a pas quitté, puisque vous dites « Je n'ai eu de cesse que de vouloir résoudre telle énigme que m'ont toujours posé les chants ».
Oui.
Donc ce trajet de Lautréamont, c'est-à-dire cette lecture initiale qui n'en était pas une, puisque vous pensiez l'avoir lue alors que vous ne l'aviez pas lue, ce décalage par rapport à la lecture de Breton, puis enfin, la poursuite de votre propre lecture, marque un trajet. Le vôtre, en quelque sorte.
Oui, ça c'est aussi le résultat de certaines promenades. C'est-à-dire j'ai beaucoup circulé dans les rues où il a habité. Et j'ai beaucoup regardé les lieux dont il parle dans les chants.
Il y a cette histoire extraordinaire de la statue du rhinocéros face à la rue de Castiglione.
C'est un vrai rhinocéros qui apparaît à la rue de Castiglione, qui fait face donc à la place Vendôme. C'est la conclusion des chants qui m'a semblé toujours la plus étrange. Non seulement parce qu'elle est la conclusion, mais parce qu'elle relate un fait qui a l'air d'en masquer un autre. Et j'ai toujours été intrigué par la signification de ce dernier épisode des chants qui est un roman.
Qui est un roman, oui. D'ailleurs, qui annonce, dit-il, 6 courts romans, évidemment, qu'il n'a pas écrit.
L'apparition du rhinocéros dans la rue de Castiglione m'a toujours frappé au début parce que je savais depuis longtemps, par hasard, que c'était l'emplacement du manège. Le manège où avaient lieu les réunions de la Convention, le manège où ont eu lieu les dernières réunions des Jacobins avant la prise du pouvoir par Bonaparte au 18 Brumaire. C'est-à-dire un lieu particulièrement significatif dans l'histoire de la pensée et de l'histoire de la politique française. Ce rhinocéros protège la famille de Mervyn, qui est un aristocrate, qui se trouve derrière lui, et Maldoror tire sur ce rhinocéros qui est quelque part identifié à Dieu dans le texte.
Oui. Et il ne parvient pas à le tuer.
Mais, par contre, il tue l'aristocrate Mervyn. Après avoir échoué une première fois, et après avoir rencontré un personnage étrange qui s'appelle Agon au jardin du Palais Royal, que Maldoror couronne d'un pot de chambre, et qu'il appelle le fou couronné. Ensuite, je rappelle brièvement les faits. Agon aide Maldoror à hisser le cadavre au sommet de la place Vendôme, et ayant fait tournoyer au bout d'une corde ce cadavre attaché par les pieds au sommet de la colonne Vendôme, il le lance tel une comète enflammée à travers le ciel de Paris, et le cadavre de l'aristocrate va s'écraser sur le dôme du Panthéon.
Et bien sûr, sous la Commune, c'est Courbet qui fera abattre la fameuse colonne.
Oui, alors ça, c'était la première chose qui m'avait frappé, que 2 ou 3 ans avant que la colonne Vendôme ne se renverse effectivement, Lautréamont, dans une sorte de fulguration étrange, est célébré, en quelque sorte, à l'envers, cette colonne qui avait une signification napoléonienne, puisqu'elle relatait le triomphe des armées de Napoléon, et qu'elle se substituait, en quelque sorte, à l'ancienne statue de Louis XIV qui se trouvait là, et que la Révolution française avait renversée. Or, il s'est trouvé que, par hasard, je sois tombé sur un livre qui raconte l'histoire de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau, et j'ai été tout à fait surpris de découvrir que Michel le Pelletier de Saint-Fargeau, aristocrate, jeune aristocrate français, comme Mervyn, ayant promulgué les premiers décrets pour la nouvelle éducation des jeunes gens, et ayant voté la mort du roi, s'était fait assassiner au jardin du Palais Royal par un garde du roi qui s'appelait Paris, ou de Paris plus exactement. Puis son corps, alors qu'il n'était pas encore mort, a été transporté chez son frère, Michel Le Pelletier, qui habitait place Vendôme. Et la Convention a décidé de transporter le corps de Michel Le Pelletier sur le socle de la statue de Louis XIV, à la place même où se trouve la colonne Vendôme aujourd'hui, et de là, avec les corps constitués, la Convention au complet, on a suivi le corps exposé sur son lit de mort de Michel Le Pelletier, avec l'épée qui se trouvait à son côté, jusqu'au Panthéon. Et on retrouve exactement le même itinéraire, Palais Royal, place Vendôme, Panthéon, et je crois que c'est la seule fois dans l'histoire de Paris qu'un cadavre ait fait ce trajet.
Et c'est exactement le trajet de Mervyn, enfin du cadavre de Mervyn.
C'est le trajet du cadavre. En plus, en vérifiant quelle était la fonction du Panthéon à la fin du règne de Napoléon III, c'est-à-dire l'époque où Lautréamont écrit les chants, on constate que le Panthéon a été débaptisé, ne s'appelle plus des Panthéons parce que, à cause de la signification révolutionnaire du mot Panthéon, et s'appelle tout simplement Basilique Sainte-Geneviève.
Oui.
il n'est redevenu Panthéon qu'après la Commune. Or, curieusement, Lautréamont ne l'appelle pas Basilique Sainte-Geneviève, l'appelle Panthéon. Et ce rappel de la signification occulte, véritable, de cette église dont les clochers avaient été arasés par quatre maires de Quincy pendant la Révolution française, pour moi, lit très curieusement, très étrangement, tout l'enjeu, puisqu'il s'agit de la conclusion des chants, tout l'enjeu intellectuel et secrètement politique de l'œuvre de Lautréamont.